Chez Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini et Chibougamau, venez voir le F-150 avec la technologie d'aide au conducteur Ford Copilot 360 offerte en option. En plus, le F-150 est équipé du système Pro Trailer Backup Assist qui facilite la marche arrière avec n'importe quelle remorque. Obtenez-le à un taux annuel de 0% à l'achat jusqu'à 84 mois et 4 500 $ de rabais sur les F-150 2020 sélectionnés.
Jean Dumas, le concessionnaire.
Marc Griffin, salut Marc.
Salut.
Marc, tu dois recommencer à voir, t'as décrire des vrais matchs de baseball. Là.
Oui. Oui, écoute, j'ai très hâte. Puis, tu sais, évidemment, on suit la situation de près. Ben, c'est quand même fragile, tout ce qui se passe avec les joueurs qui testent positif. Mais je suis quand même très encouragé là, pour la suite des choses.
Ah oui. Marc, écoute, là, est-ce qu'une saison de 60 matchs, Charis, c'est un sprint, c'est pas un marathon? Hein, parce qu'une saison de baseball, c'est un marathon, tandis que là, c'est un sprint. Là, ça va changer bien la donne, là, pareil. Là. Ça va avoir des impacts, j'imagine, sur les changements de lanceurs. Ça va avoir des impacts. Les gérants géreront pas de la même façon, j'ai l'impression.
Non, non. Ben écoute, t'as raison. Le style de jeu va peut-être changer.
Oui, hein?
Est-ce qu'on va revenir un petit peu plus à ce qu'on appelle en jargon le small ball? Donc, est-ce qu'on va revenir avec un petit peu plus d'amorti, sacrifice, de courir frappe? Pourquoi je dis ça? Parce que tu l'as dit. Le baseball a toujours été basé sur le long terme. Ça parlait de marathon, là, je pense que c'est une belle image. Là. Puis là, ben, soudainement, tout le monde, les 30 équipes se retrouvent à un pied d'égalité, entre guillemets, parce que c'était pas commencé la saison, mais avec dans le dernier droit. Tu sais, souvent, là, quand il te reste 60 matchs, et t'en as joué une centaine, t'as séparé un peu les bonnes, les moins bonnes équipes, puis là, tu sais à peu près contre qui tu vas te battre. Là, c'est tout le monde, parce que tout le monde, l'année passée, tu regardes sur 162 matchs, il y a une séquence, on a fait un tri, là, toutes les équipes, là, dans un moment donné, dans un contexte d'une soixantaine de parties, là, même les moins bonnes équipes, ils ont eu des passages de 60 matchs où ils ont été 30-30, ou à peine un match en bas de 500, ou juste un... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde a une chance.
Ouais.
Alors, c'est sûr que si tu commences la saison, tu sais, souvent, moi, je me dis, écoute, tu commences la saison, une bonne équipe, exemple, les Dodgers ou les Nationals, puis ils commencent la saison, tu sais, 4-7, tu dis, tu sais, il n'y a pas un gérant qui va paniquer. Là, cette année, tu peux pas commencer la saison 4-8, 4-9, parce que tu as déjà joué, là, tu sais, une bonne partie de ta saison, puis le temps de rattrapage, vous comprendrez, est à peu près inexistant. Alors, c'est sûr que le game va changer un peu, puis moi, je m'attends, effectivement, à avoir un peu plus d'amorti, pas parce que c'est si différent, mais est-ce que tu peux vraiment te permettre comme gérant d'attendre le circuit de 3 points à chaque game quand t'en restes si peu? Je suis pas certain.
Puis j'ai hâte de voir les changements de lanceurs, parce que normalement, normalement il y a une saison c'est ainsi d'année, t'as une saison 140 matchs, tu sais, souvent il y a un long camp d'entraînement, puis les lanceurs arrivent, ils sont capables de lancer 6 semaines. Là, quand la manière s'est arrangée, un lanceur partant quand il aura fait 5 manches, ça va être pas mal le top, là.
Ouais, ça va être le nombre de tirs, en fait, effectivement, là, tu sais. Fait qu'un gars qui a, même un DeGrom lancera pas à son premier départ 125 lancers, là. Alors, effectivement, il y a 12, tu sais, regarde, un lanceur partant va avoir une douzaine de départs. Déjà, les Reds ont mentionné que dans le cas de Trevor Bauer, c'est pas impossible qu'il lance, lui, au lieu d'avoir 5 partants, on irait peut-être à 4, alors, lui pourrait lancer à tous les 4 jours au lieu de lancer à tous les 5 jours. Bon, ça va dépendre de chacune des équipes, mais il va y avoir des décisions prises de la sorte là, qui vont peut-être surprendre. Puis, tu sais, parce que l'état de santé, quand je dis santé, là, c'est, je parle physiquement, là, je parle pas de la COVID, là, mais de chacun des lanceurs est peut-être différent. Il y a peut-être des gars qui ont continué à lancer là, à un bon rythme durant cette période d'inactivité, puis d'autres qui ont peut-être arrêté. Donc, ça va avoir une influence sur la façon dont on va gérer chacun des lanceurs. Fait que, tu sais, c'était un bon casse-tête, là, puis tu as la nouvelle réglementation qui entre en ligne de compte. Ben, en fait, au niveau des lanceurs, c'est que, rappelle-toi, là, ton releveur doit affronter un minimum de 3 frappeurs s'il ne termine pas la manche.
Oui, c'est vrai.
Bon, tu as le frappeur de choix, tu as le fameux coureur au deuxième en manche. Tu sais, écoute, la game, elle va changer pas mal, là.
C'est vrai ce que tu dis là. Moi, au début, je n'étais pas pour ça, moi, le frappeur. J'étais un conservateur du joueur au deuxième but. Je trouvais que ça déformait un peu le baseball. Conservateur, mais à quelque part, je compare ça à fusillade au hockey.
Écoute, moi non plus, je suis pas le plus grand fan. Mais tu sais, tu parles souvent à Michel Laplante, Michel non plus, pas le plus grand fan. Puis à force de le voir, ça devient extrêmement stratégique aussi. Parce que là, est-ce que tu demandes à ton équipe d'amortir une balle, donc d'avoir un amorti sacrifice pour le pousser au 3? Est-ce que tu... Tu sais, comment tu joues la game? Ça va créer quand même quelque chose de le fun. C'est sûr que le baseball est un sport de statistique. Là, la statistique, elle comptera pas, le gars ne pourra pas... Tu sais, ce ne sera pas un point marqué pour le coureur, ce ne sera pas un point mérité pour le... Tu sais, il va y avoir un paquet de facteurs qui va faire que ça va être à peu près... inodore et incolore là, comme statistique. Fait qu'il y en a qui aiment pas ça. Mais ça reste qu'au niveau du jeu, ça va permettre évidemment d'éviter des matchs de 17 manches, compte tenu évidemment des circonstances. Mais ça va vraiment créer, selon moi, différentes stratégies, donc différents scénarios pour les gérants. Dépendamment, t'es rendu où aussi dans ta formation partante. Fait que je pense que ça sera pas inintéressant, mais je convaincu que ça sera pas une règle qui va rester pour les années suivantes, parce que ça reste quand même un test intéressant de l'essayer dans un contexte actuel.
Mais c'est de valeur, parce que je me rappelle plus, ça va ressembler un peu à la saison 1981, de la manière, parce que je me rappelle plus, j'étais trop jeune, Marc, t'es un petit peu vieux que moi, ça avait eu deux demi-saisons, est-ce qu'on peut comparer un peu la même situation, ça ressemble-tu un peu?
Ouais, ben là évidemment, il y avait pas de changement de réglementation, mais effectivement, parce que écoute, tu regardes ce qui s'est passé en 81, les Expos affrontaient les Phillies, mais la meilleure équipe avait été les Cards à cette époque-là.
Ouais.
Si tu combines la fiche sur les 162 matchs, c'est les Cards qui avaient eu, si je ne m'abuse, la meilleure fiche. Puis là, ben on se retrouvait avec les Phillies et les Expos. C'est là qu'on se dit que ça, peu importe là quelle équipe est favorite dans chacune des divisions, ça va, d'après moi, il va y avoir une ou deux ou même peut-être trois surprises compte tenu du fait qu'on en joue juste 60.
C'est les Blue Jays pour Atlanta.
Ben pourquoi pas? Il y a une excitation avec les Jays, avec leur jeune équipe, vont signer un bon premier choix qu'ils ont mis sous contrat. Il y a une bonne vibe autour de l'équipe. Hey, on le sait pas. Honnêtement, là, il n'y a pas beaucoup d'équipes actuellement que j'éliminerais complètement, et surtout pas les Blue Jays, évidemment. Par contre, les Blue Jays, vous comprendrez, ils jouent dans une division qui est pas facile. Mm. Les Rays, les Yankees, même les Red Sox, ils sont pas aussi puissants, restent une équipe quand même à suivre. Donc, ce n'est pas un calendrier facile pour les Jays, mais certainement une équipe qui va être à surveiller. Puis, comme j'ai dit, je pense que le départ, début de saison, va déterminer beaucoup de choses.
Ouais. Marc, deuxième, ce que je veux t'emmener, il y a eu une nouvelle importante. Moi, je considère que c'est une nouvelle importante dans le baseball cette semaine. Dave Dombrowski qui a été nommé comme une espèce de consultant au groupe de Nashville qui veut amener une concession dans le baseball. Et ma réflexion là-dessus, c'est que je me disais, le groupe de Montréal, c'est sûr que le groupe de Montréal travaille beaucoup avec le propriétaire des Rays. C'est sûr, c'est pas la même affaire qu'à Nashville. Mais je me demandais qu'un gars comme Paul Beeston, qui est très influent dans le monde du baseball, qui a des entrées partout, qui a une très bonne réputation, ça pourrait pas être. Il pourrait pas être un peu au groupe de Montréal, ce que Dombrowski pourrait être au groupe de Nashville, et Tony La Russa aussi qui est là-dedans. C'est sûr que c'est pas le même contexte parce qu'eux semblent travailler plus avec le président des Rays, mais quand même, t'ajouterais un Paul Beeston dans cette gang-là, ça aiderait sûrement.
Écoute, c'est évident que des voix fortes, des personnalités fortes, comme tu mentionnes, c'est Dombrowski ou La Russa, c'est intéressant. Ouais. Intéressant. Maintenant, ça reste que à la fin de la journée, est-ce que le projet fait du sens? Qui finance ça? Il y a beaucoup d'aspects là. Tu sais, c'est sûr que tu peux en faire un flafla.
Mais c'est ça, Dombrowski et La Russa, ça s'est pas associé avec des pieds de céleri.
Non, tout à fait. Ça donne une certaine crédibilité, mais c'est comme si, par exemple, on décidait que du côté, mettons, des Expos, on irait vraiment, on engagerait, exemple, un Steve Rogers, qui est très influent au niveau de l'association des joueurs, qui pourrait avoir une voix très forte dans le baseball. Tu pourrais aller chercher aussi des
Paul
Beeston, effectivement, bon, c'est sûr que Paul Beeston a fait du très bon travail. Il ne fait pas l'unanimité nécessairement partout, mais il a été excellent. Il a une très belle feuille de route.
Ouais.
La question que je me pose, c'est que dans le contexte actuel avec le projet RAISE, Expo, Bronfman et tout ça, est-ce qu'on a vraiment besoin?
Ouais.
Je pense qu'on a passé l'étape de mettre ça tout beau, tout. Je comprends dans le cas de Nashville, ils arrivent un petit peu dans le portrait, veulent se faire connaître, s'associent de façon très intelligente à des noms qui sont forts dans le baseball. Je trouve que c'est une très belle stratégie, mais je suis pas certain qu'on doit nécessairement limiter. Mais par contre, tu l'as dit, puis si tu associes des gars comme que ce soit Beeston ou Steve Rogers, comme j'ai nommé, il n'y a rien qui va t'empêcher. T'sais, ça ne te nuira pas, puis ça peut peut-être même t'aider éventuellement, mais je pense pas que on est beaucoup plus avancé que ça dans le dossier Rays Expo actuellement, ce qui fait que c'est difficile de comparer les deux.
Parce que moi je pense qu'il va arriver, c'est qu'il va avoir la journée il va avoir une expansion, ça va être une concession à l'est et à l'ouest. T'as Las Vegas qui d'après moi qui va être une candidature très très très, parce que là on a commencé à y aller dans le sport professionnel, là, c'est un marché que tu peux repérer.
Exact.
Et tu vas en avoir une dans l'est. Nashville est une ville. En tout cas, moi, je pense que si c'est ça, Nashville, va être. Si Montréal est en expansion, puis mettons que ça avance pas, le dossier des Rays, mais je pense que ça va avancer, mais mettons, on pourrait se retrouver avec Montréal contre Nashville dans l'Est, là. Et Nashville est un adversaire de choix, mais est un adversaire qui peut être coriace à Montréal, là. C'est un beau marché, Nashville, aussi. Là.
Ouais, non, absolument. Puis, mais sache par contre que faut que le dossier des Rays, il prenait pas Rays Expo, mais que le dossier des Rays soit finalisé. C'est-à-dire que soit qu'il y a eu l'entente ou soit qu'il y a eu déménage, mais on laissera pas les Rays aller comme ça. Si Nashville arrive, oui, il y a l'expansion. Ça fait longtemps qu'on veut deux nouvelles équipes dans le baseball. On veut un calendrier plus équilibré. On veut 32 équipes. On veut éliminer les divisions actuelles, ça va être des conférences un petit peu plus, ça va être plus, disons plus, comment je dirais, là, donc une structure qui est peut-être plus solide là, derrière ça. Alors, c'est pas mauvais d'entendre des choses comme ça, de voir qu'une ville comme Nashville pourrait être intéressée à avoir du baseball. Je pense que ça aide à la crédibilité tout ça, puis ça va peut-être aussi aider à faire avancer le projet Rays Expo pour qu'à un moment donné, on se dise, écoutez, il faut avancer dans ce dossier-là. Donc, moi, je pense que c'est vraiment pas une mauvaise chose. La compétition a toujours été une bonne chose dans la vie, puis dans ce côté, ça fait pas exception.
Marc, je veux te parler en terminant, parce que de ce qui s'est passé la semaine passée, une nouvelle décevante, que bon, évidemment qu'il n'y a pas de tournoi. Le tournoi Michel Laplante a tenté d'organiser, on a connu il n'y aura pas de tournoi finalement, mais moi, ça me... Juste le fait d'entendre que Manny Ramirez aurait pu pas. Puis Michel Laplante me l'a confirmé, là. Me l'a bel et bien confirmé que c'était fait. S'il y avait un tournoi, Manny Ramirez jouait pour les Capitals. Et moi, j'ai dit à Michel Laplante, j'ai dit l'année prochaine, vous allez avoir besoin. Les Capitals, c'est un dur coup pour eux, là. J'ai dit, vous allez avoir besoin de noms pour relancer le baseball. Puis juste le nom Manny Ramirez à Québec, porter le nom. Ce serait une attraction terrible. Indépendamment de ce qui se passerait sur le terrain, les gens se déplaceraient compte tenu du joueur. Comment tu aurais vu ça? Puis même pour l'an prochain, si le gars est capable. Parce que Michel Laplante m'a dit que côté baseball, il y avait encore du gaz pour une ligue comme les Capitals, il aurait pu très bien performer. Là. Comment tu vois tout ça, toi?
Ben, exactement comme tu l'as mentionné. Tu sais, c'est une belle vitrine. C'est un gars qui va attirer du monde. C'est un gars qui a été quand même très spectaculaire dans sa carrière. Absolument, tu sais, je veux dire, ça reste que les Capitals, tu sais, c'est de l'entertainment, hein. Ouais. On veut plaire, on veut avoir du fun, tu sais, c'est déjà, bon, la terrasse, le stade, tu sais, on va aux Capitals à Québec, c'est extraordinaire, même chose du côté de Trois-Rivières. Alors, si t'amènes un gars qui fait déplacer les foules de même, tu sais, ça va piquer la curiosité de bien amateurs de baseball d'aller voir ça. Alors, absolument.
ESPN aurait débarqué à Québec. Je suis convaincu qu'ESPN aurait débarqué à Québec.
Écoute, c'est sûr qu'on en aurait parlé. Absolument. Tiens, je veux dire, c'est Michel a plusieurs tours dans son sac, il est capable, il est très créatif. J'étais convaincu moi que ça allait fonctionner. C'est pas par manque d'effort que c'était une idée tout à fait géniale qu'il avait eu. On était si près du but dans tout ça, mais Écoute, tu sais, Michel, l'affaire d'Éric Gagné, là, ça a commencé de même. Alors, tu sais, puis Michel a été très impliqué dans ce dossier-là aussi. Fait que moi, j'ai confiance que Michel va nous trouver une solution pour que l'année prochaine, les capitales vont être une attraction. Est-ce que ça sera avec Manny ou sans Manny ou avec Manny Ramirez, je ne sais pas, mais chose certaine, c'est toujours le fun d'entendre que depuis quelques années, il y a beaucoup de joueurs qui veulent venir jouer à Québec. Mm-hmm. Ça, ben écoute, c'est tout en l'honneur de Patrick Scalabrini puis Michel Laplante avec ce qu'ils ont fait avec les capitales de Québec. Je parle, évidemment, je parle pas juste des joueurs de baseball professionnels indépendants. Là. Il y a des noms comme Manny Ramirez et d'autres. Il y a déjà eu Vlad Guerrero là, ouais, qui a passé bien près de porter l'uniforme des capitales à un certain moment donné. Donc, écoute, moi, je pense qu'on n'est pas une surprise près, là.
Moi, un gars comme José Bautista, puis un gars comme Russell Martin, ça pourrait... Je dis pas que ça va arriver, là, mais ce serait deux noms qui n'ont pas pris leur retraite officiellement. Puis, mm-hmm. Ce serait tout que des stunts publicitaires si Michel Laplante essaierait des atonnés. Marc, je vais te laisser aller à tes occupations de travaux. Bon travaux aujourd'hui.
C'est bon, merci.
Juste en terminant, vous recommencez quand? Est-ce que le 23, vous êtes en onde?
Oui, on va être en onde. On va être en onde le 23, assurément. Et puis, bon, pour la suite des choses, c'est encore flou, mais disons que.
Puis ton podcast, on va... Parce que moi, je suis un amateur de podcast.
Ben écoute, on va toute la vie normale, entre guillemets, va reprendre un peu là, du côté de tout ça. Fait, oui, c'est tout va reprendre, mais on devrait aussi reprendre le calendrier régulier, c'est-à-dire des matchs du dimanche soir, du lundi soir, du mercredi soir. Et en souhaitant qu'on fasse aussi le match du 13 août qui va être présenté au Field of Dreams. Alors, il y a plein de choses là, peut-être qui s'en viennent là, du côté de... On devrait avoir tous les détails dans les prochains jours.
Marc, un gros merci. On s'en parle bientôt.
C'est bien fin. Merci, Robert. Au revoir.